Le journal en français. Elievin Bwinga.
Bonsoir, lendemain toujours incertain pour les 200 députés qui ont quitté leur composante et entité après la décision de Olivier Kamitatou de libérer la tête du Parlement. Le vice-président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale est clair. Ces députés doivent partir, a signifié Ndesho Ruri Hiro. 8 morts et 4 disparus, bilan du naufrage d'un bateau dans la rivière Chuapa, près de Boende, province de l'Équateur. Cause de l'accident, la surcharge. Le bateau transportait une centaine de passagers des produits agricoles. Dans ce journal aussi, cette mise en garde de l'ONG Human Rights Watch contre le risque de manipulation politique des enfants de la rue. Elle affirme dans un rapport publié ce mardi à Kinshasa. Après la démission de Olivier Kamitatou de la tête du Parlement suite à l'arrêt rendu par la Cour suprême de justice, qu'en est-il du sort de plus de 200 députés qui ont des problèmes avec leurs composantes et entités? Le vice-président de la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale est clair à ce sujet. Pour le député Ndeshio Ruriro, face à cet arrêté, ces députés n'ont plus le choix. Ils doivent quitter le Parlement. Le professeur Ndesho regrette cependant que la Cour suprême se soit prononcée sur une question qui relève de la déontologie des partis politiques. On l'écoute.
Il n'y a pas de résistance à faire de la part des députés. C'est un arrêt qui, en principe, doit être appliqué, même si politiquement, il n'était pas souhaitable. La Cour s'est mise dans des affaires aussi politiques et aussi délicates que le mandat des députés. Moi, je pense que l'affaire est plus politique que juridique. J'estime que la Cour aurait pu, n'est-ce pas, épargner l'Assemblée nationale et la Cour suprême s'est fourvoyée dans une question extrêmement politique de déontologie qui a des aspects sans doute juridiques, mais on aurait pu épargner le peuple congolais, n'est-ce pas, d'un désordre.
Les propos du député Ndesho ont été recueillis par Guy Roger Nyampala. Processus électoral encore, notez que 73 candidats, dont 8 femmes, se sont enregistrés pour la présidentielle et 8650 pour les législatives. Le président de la CEI l'a déclaré ce mardi au cours de la conférence de presse qu'il a tenue à Kinshasa. Par ailleurs, l'abbé Apollinaire Malumalu a annoncé que la publication des listes provisoires des candidats interviendra le 5 avril pour la présidentielle et le 19 avril pour les législatives. Quant à la réception des dossiers de candidature pour les élections provinciales, le président de la CEI a signifié qu'elle débutera le 20 avril prochain. L'actualité, c'est aussi ce naufrage d'un bateau dans la rivière Chuapa, près de Boende, dans la province de l'Équateur. Bilan provisoire, 8 morts et 4 disparus. Ce bateau qui revenait d'Ikela transportait à son bord une centaine de passagers et des produits agricoles. Cause de l'accident, la surcharge, les survivants sont regroupés dans les installations de l'ONATRA Boende, où ils vivent dans des conditions très difficiles. Des précisions avec Henri Lobondo-Bokelou.
Mbemita, c'est le nom de ce bateau qui a coulé dans la rivière Chuapa à Balingo Konda, localité située à plus ou moins 68 km en amont de Boende. Selon le commissaire de district de la Chuapa, jusqu'à présent, le nombre des morts n'est pas encore connu, faute de manifeste. Mais le premier bilan fait état de 8 morts, dont les corps sont repêchés. 4 personnes, parmi lesquelles le gérant du bateau et son épouse, sont portées disparues. Le pousseur et ses 3 barges ont coulé à pic. À l'origine de cet accident de navigation, la surcharge. Cette unité fluviale en provenance d'Ikela, où le moyen de transport se pose avec acuité, transportait des produits agricoles. À en croire le commissaire de district Willy Issekoussou, il avait embarqué à son bord une centaine de passagers pour Kinshasa. Une équipe d'enquêteurs composée notamment du commissaire fluvial, de la DGM, de l'ANER et d'un agent du parquet a été dépêchée sur le lieu de l'accident. Entre-temps, les rescapés se trouvent déjà à Boende où ils sont regroupés dans les installations de l'ONATRA. Aucune assistance humanitaire jusque-là pour ces hommes et femmes qui ont tout perdu et qui vivent difficilement. Henri Lobondo-Bokelou, Mbandaka, Radio Okapi.
Un incendie de plus à Goma dans la nuit d'hier au quartier Mabanga Sud. Bilan 2 morts. Les victimes, 2 jeunes gens, ont été surpris par le feu alors qu'ils dormaient, d'après leurs proches. Pas de précision pour l'instant sur l'origine du sinistre. C'est le 4e incendie déclaré en l'espace de 10 jours dans cette ville du Nord Kivu. Gisèle Cage pour les détails.
C'est aux environs des minuit que l'incendie s'est déclaré dans une maison en terre battue. Les témoins trouvés sur place déclarent avoir été réveillés par des cris des victimes qui demandaient du secours. Pendant ces temps, le feu avait déjà embrasé la chambre de 2 victimes. Une des victimes était parvenue à sortir des flammes grâce au secours de voisins qui sont parvenus à défoncer la porte de la chambre. Mais c'est en essayant de sauver son ami qui était bloqué à l'intérieur que cette autre victime sera également prise par le feu. Il s'agit donc de deux jeunes garçons de moins de 30 ans qui ont succombé dans cet incendie. Personne des témoins n'arrive à expliquer l'origine des feux. C'est le quatrième incendie déclaré en l'espace des 10 jours dans le quartier le plus populaire de la ville de Goma. Et souvent, ce sont des maisons en planches qui sont les plus exposées. La ville de Goma compte plus de 500 000 habitants, mais ne dispose d'aucun camion anti-incendie. Selon le maire adjoint de la ville de Goma, le seul camion qui avait été mis à la disposition de la mairie n'a jamais fonctionné, faute de moyens pour sa réparation. Gisèle Cache, Goma, Radio Okapi.
Sachez aussi que les mines antipersonnelles tuent également au Congo. Près de 2000 victimes dans le pays et notamment au sud Kivu. Dernier incident en date dans cette province. Un camion civil transportant des marchandises a sauté sur une mine dans le territoire de Mwenga, faisant plusieurs blessés. L'accident s'est produit il y a un mois. Pour Pierre Destarac, coordonnateur de la lutte anti-mine des Nations Unies, au moins 25% des victimes de mines antipersonnelles et d'autres engins dangereux dans le pays sont au sud Kivu. Pierre Destarac est au micro de Serge Maéché.
La plupart des accidents qui ont lieu, ce sont avec ces fameux UXO, c'est-à-dire les grenades, les mortiers, les roquettes qui traînent sur le terrain, que les gens ramassent, amènent chez eux, essayent d'ouvrir et à un moment, ça explose. Alors pour l'instant, les chiffres que j'ai donnent pour la République démocratique du Congo, en gros, 2000 victimes. Pas forcément 2000 morts, mais 2000 victimes. Sur ces 2000 victimes, le Sud Kivu en a en gros dans les 400, ce qui représente à peu près 25% des victimes au niveau de la RDC. Il y a sûrement des endroits où il y a des victimes, mais qui n'ont pas encore été recensées. Nous progressons dans les enquêtes sur le terrain. Et au fur et à mesure des enquêtes, les données nous permettent d'alimenter une base qui se trouve à Kinshasa.
Restons toujours dans ce chapitre pour vous signaler qu'à Kisangani, environ 171 personnes ont été victimes des accidents causés par des engins non explosés ainsi que des mines antipersonnelles au cours des années 2001-2003. Bilan tiré par l'ONG Handicap International qui s'occupe des déminages dans la ville et dans un rayon de 80 km² autour de Kisangani. Cette ONG a sensibilisé depuis 2001 des milliers de personnes sur le danger de ces engins non explosés. Cependant, d'autres engins non explosés découverts dans des zones rurales sont ramenés en ville par certaines personnes pour la commercialisation de la ferraille, soit encore de la poudre contenue dans l'engin. Handicap International appelle donc toute la population de Kisangani à la vigilance pour éviter le danger que présentent ces mines. Madame Myriam Abord, coordonnatrice du programme de l'ONG Handicap International Belgique à Kisangani, explique au micro de Godlive Omondo.
Nous avons pu enlever 12 595 engins non explosés, ce qui représente ou des grenades ou des munitions qui ont été laissées par les différentes factions armées. 57 mines antipersonnelles, plus ou moins 171 victimes qui ont été recensées entre 2001 et 2003. Nous n'avons pas encore les chiffres pour les deux dernières années. Alors, beaucoup d'engins non explosés que nous appelons des UXO ont pu être repérés soit dans des zones de casernement militaire. Donc, notre analyse aujourd'hui, c'est qu'on constate qu'il y a des gens qui découvrent certains engins en zone rurale et qui peuvent les amener sur la ville de Kisangani, soit pour faire de la revente en termes de ferraille, soit pour revendre de la poudre. Donc, il faut bien faire attention à ce genre de choses. C'est particulièrement dangereux parce que la plupart des gens ne sont pas conscients du danger que cela représente.
18h09 à Kinshasa, le gouvernement congolais doit multiplier des efforts, surtout en cette période préélectorale, pour protéger ses enfants. Conclusion de l'ONG internationale Human Rights Watch dans un rapport publié ce mardi et intitulé « Quel avenir les enfants de la rue en République démocratique du Congo ?» Tony Tête, chercheur de Human Rights Watch et auteur de ce rapport, met donc en garde contre le risque de manipulation politique et de maltraitance supplémentaire des enfants de la rue, comme il a été le cas au cours des dernières années. On écoute Tony Tate au micro de Clara Kabundi.
Le gouvernement, ensemble avec la communauté internationale, doivent redoubler les efforts pour être sûr que ces enfants de la rue ne sont pas recrutés, ne sont pas utilisés par le parti politique pour faire des désordres. Et comme ça, c'est une première étape pour ces enfants de la rue de les protéger pendant les la période électorale. Et après, on a quelques recommandations pour le gouvernement de vraiment essayer de sensibiliser la population congolaise. Pourquoi il y a la violence? Pourquoi ces enfants sont dans la rue? On demande au gouvernement de faire un plan réel pour réagir dans un sens national, pour essayer d'éviter que les enfants arrivent dans la rue dans la prochaine, aussi pour essayer de trouver la famille, les oncles, les tantes, etc., etc., pour bien prendre ces enfants qui sont déjà dans la rue.
Et puis une première à Magui, chef-lieu du territoire du même nom, situé à 200 km au nord-est de Bounia. Le tribunal militaire de garnison de l'Ituri, déplacé en chambre foraine, prononce ses premiers verdicts. Des policiers militaires FRDC coupables de plusieurs chefs d'accusation ont été condamnés à la peine de mort et à quelques années de prison ferme. Le point avec André Kambala.
8 prévenus sur 9 ont connu leur sort à l'issue des verdicts prononcés par la chambre foraine du tribunal militaire de l'Ituri à Mahagi. Tous ces prévenus se recrutent parmi les militaires et les policiers. Selon Joachim Oumegui, directeur de la radio Colombe de Mahagi, le premier verdict a concerné 2 policiers et 1 militaire. Tous accusés d'homicide, coups et blessures et arrestations arbitraires. À l'issue du verdict, un policier condamné à mort pour avoir tué un homme à Nyarambe, une localité située à un peu plus de 20 km de Mahagi. Un autre policier subit 6 ans de prison ferme et le militaire, lui, en a pour 10 ans. Le second verdict concerne l'homicide et la mutilation d'un homme à Mahagi le 17 décembre. Ici, 2 militaires ont été condamnés à mort. Un policier cope 5 ans de prison ferme. 2 militaires sont acquittés faute de preuves. Le 9e prévenu, un policier, attend son verdict dans un autre dossier. La population de Mahagi salue cette initiative. Elle croit déjà à la fin de la période de l'impunité, période au cours de laquelle, dit-elle, les policiers de l'intervention rapide se sont conduits à maître absolu. De Bounia, André Kambala, Radio Kapi.
Ouf de soulagement pour des milliers d'élèves et écoliers de la ville de Kindu. Une 20aine d'écoles primaires et secondaires viennent d'être réhabilitées grâce au financement de la coopération technique belge, CTB en sigle. Ces travaux ont été exécutés par des ONG locales dans le cadre du projet d'appui aux initiatives communautaires de base. Explication Gabriel Ouamenia.
La situation est normale au BRTC Kindu après l'engouement observé hier soir pour les dépôts tardifs des dossiers des candidatures. Pas de difficultés majeures pour le BRTC Kindu seulement, il a été appelé à trancher hier entre 2 mandataires du parti AMDU7 qui s'est disputé. Ils se sont présentés au nom des Augustin Kikukama et l'autre au nom des Célestin Luangi pour les dépôts des dossiers de ses membres au poste du député national. Incident qui a poussé la CI à se référer à Kinshasa pour savoir si les dossiers de ces deux personnes qui se dispute la tête du M17 en cours d'instruction judiciaire à la Cour suprême était déjà tranchée, chose qui a été confirmée pour signifier que c'est Célestin Luangi qui est le président national des M17 et c'est en son nom que pouvaient se présenter les mandataires pour les dépôts des dossiers de leurs candidats. Actuellement, il reste que l'examen des 39 dossiers en cours de traitement. Notons que sur les 125 dossiers déposés, 13 sont pour les femmes. Les dossiers non en règle et qui ne seront pas régularisés par les partis politiques dans 5 jours, délai accordé par la loi seront rejetés par les BRTC. Mami Alili Chibangu, Kindu, Radio Kapi.
Voilà, vous avez suivi là le dépôt des candidatures à Kindu. Nous allons maintenant à Kananga où le marché de Kanzala à Chikapa fait peau neuve. Ce plus grand marché de cette ville du Kasaï occidental est totalement reconstruit grâce à une initiative de la mairie de Chikapa. Coût des travaux, 4 000 $ américains. Ce marché financé par les commerçants va contenir plus de 4 000 marchands. Reportage Marie-Chantal Lumba.
C'est sous l'initiative de la mairie de la ville de Chikapa que les commerçants ont reconstruit leur marché. Selon la présidente de ce marché, chaque commerçant a payé 3 500 francs congolais pour acquérir un stand. Et cet argent a servi à la reconstruction de 13 pavillons et de plus de 500 stands. Le maire adjoint de la ville, Liliane Kongolo, souligne qu'il n'a pas été facile de convaincre les commerçants du bien fondé de l'initiative, étant donné que les marchands pensaient que l'État voulait morceler le terrain, comme l'avaient fait les anciennes autorités de la ville. Selon les commerçants, il ne reste que la construction des latrines et du bureau du préposé du marché pour finaliser les travaux, tâche qui revient selon la même source à la mairie. Ce marché de Kanzala pourra contenir plus de 4 000 commerçants. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Kapi.